le Corse et l'Auvergnat.
Romain Marcilli.
Jérémy Gallon.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Romain.
Bonne année, meilleurs vœux à nos auditeurs. Bonne année, meilleurs vœux à toi et bien sûr à tous ceux qui nous font le plaisir de nous écouter et à leurs proches. Pace et salud et comme on dit si bien en Corse, paix et santé, ce qui dans le contexte actuel est déjà pas mal.
Merci beaucoup Romain, je te souhaite également une très belle année ainsi qu'à tes proches et puis je souhaite une très belle année 2023 à nos auditeurs. Une année qui s'annonce passionnante et au programme de cet épisode donc, nous tenterons d'analyser mais surtout de poser les grands enjeux pour certains moments clés qui vont marquer l'année à venir, tant sur le plan géopolitique, sportif que culturel.
Nous évoquerons quelques dates qui paraissent déjà incontournables cette année, qu'il s'agisse d'élections politiques ou de grands événements.
Nous parlerons également de certaines grandes tendances de fond observées ces derniers mois et qui se poursuivront en 2023.
Et nous terminerons par nos coups de cœur de la semaine, qui nous amèneront à parler de nouveau du Parrain et de son tournage épique, ainsi que les pas d'un grand explorateur, peut-être le plus grand, Magellan. Jérémy, nous sortons d'une année 2022 qui a connu de grandes échéances électorales françaises et dans d'autres pays dont on suit particulièrement l'actualité en France, comme les États-Unis, l'Italie, voire le Brésil. Mais l'année 2023 va être également riche en élections qui vont avoir une importance géopolitique certaine, à commencer par les élections générales en Turquie, en juin 2023.
Oui, en juin 2023, tu auras à la fois les élections législatives et les élections présidentielles en Turquie. Et ce sont des élections qui sont cruciales parce que aujourd'hui, la Turquie est de plus en plus un régime autoritaire, autocratique, et c'est un petit peu vu comme la dernière élection où il pourrait potentiellement y avoir une alternance. L'AKP, donc le parti de Recep Tayyip Erdogan, est arrivé au pouvoir il y a 20 ans. Petit à petit, tous les fondements de l'état de droit ont été abattus. Aujourd'hui, tu as des médias et puis surtout une justice qui sont aux ordres. Alors, la situation sur le plan intérieur est de plus en plus difficile pour Erdogan. La situation économique est désastreuse, avec des taux d'inflation supérieurs à 70% par mois. On a un parti qui, pour la première fois, du président est à moins de 30% dans les sondages. Alors, il essaie de compenser ça par une activité tous azimuts en politique étrangère, où il mène une réelle politique, où il a aucun problème à changer les alliances et à faire des virages à 180 degrés, mais ça lui a permis d'avoir un rôle central dans le conflit en Ukraine. L'accord sur les céréales s'appelle l'accord d'Istanbul. C'est lui qui est vu comme à la fois l'homme qui parle aux Occidentaux et à Poutine. C'est quelqu'un qui aujourd'hui joue aussi un jeu extrêmement dangereux en Syrie. C'est quelqu'un qui a des tensions très très fortes avec l'Europe. C'est clairement un anti-européen, un anti-occidental. Erdogan, c'est quelqu'un qui tente d'affaiblir constamment l'Union européenne et il y a des tensions très fortes avec la Grèce en mer Égée. Mais tout ça, ça nous amène dans un contexte où, pour la première fois, tu as une opposition turque qui, en 2023, essaie de se coaliser et d'être unifiée. Mais il y a eu quelques développements récents qui rendent la situation encore plus compliquée.
Oui, enfin, rappelons, même si cela peut paraître très surprenant, étant donné ce que tu viens d'énoncer, que la Turquie est toujours officiellement dans un processus d'adhésion à l'Union européenne, alors processus qui est aujourd'hui quasi à l'arrêt, mais qui n'est pas abandonné. Rappelons aussi que la Turquie est toujours membre du Conseil de l'Europe et que cela laisse assez rêveur quand la Cour européenne des droits de l'homme condamne des pays, enfin condamne régulièrement, des pays comme la France et nous empêche même, d'une certaine manière, de réellement choisir certaines de nos politiques, et je pense là notamment à notre politique migratoire, alors que cette même Cour européenne des droits de l'homme continue de tolérer en son sein un pays qui manifestement s'éloigne des conceptions que nous avons de la démocratie, et certains événements récents, liés notamment au maire d'Istanbul, tentent à le confirmer.
Oui, tout à fait. C'est vrai que tu évoques la question du maire d'Istanbul, donc Ikrem Imamoglu, qui avait été élu en 2019, maire d'Istanbul. Son élection avait été invalidée par la commission électorale. Il s'était alors représenté, il avait été réélu triomphalement, et Erdogan pour l'affaiblir, parce que Imamoglu apparaît comme son challenger le plus sérieux, vient de le faire condamner par une justice aux ordres à 2 ans de prison parce que Imamoglu aurait insulté des membres de la commission électorale. Donc évidemment, tout ça est un procès politique, factice, c'est une farce judiciaire, mais ça montre bien le virage autoritaire, autocratique adopté par la Turquie. Tu mentionnais un processus d'adhésion avec l'Union européenne qui effectivement n'aboutira jamais, mais qui fait quand même que la Turquie bénéficie de fonds européens, qui est une vaste hypocrisie. Et c'est vrai que moi j'attends le leader européen qui aura le courage d'aller à Ankara et de dire à la Turquie le processus d'adhésion est terminé, mais qui en revanche, parce que c'est quand même un voisin essentiel pour nous, sera capable de bâtir les fondements d'une relation plus stratégique avec la Turquie et plus de long terme. Mais la Turquie, c'est aussi un membre de l'OTAN. Et c'est aujourd'hui un pays qui continue quand même de mettre son veto à l'adhésion de la Finlande et de la Suède, qui joue un rôle plus qu'ambigu à l'égard de l'Occident durant la crise en Ukraine. Et donc, c'est vrai que Erdogan arrive à jouer un petit peu sur les deux tableaux, mais je pense qu'à un moment donné, l'Occident a aussi à être beaucoup plus ferme à l'égard de la Turquie, et notamment certains pays occidentaux. La France, je trouve, à juste titre, a eu une position assez ferme jusqu'à présent à l'égard de la Turquie, mais parfois se retrouve assez isolée dans cette position ferme à l'égard de la Turquie. Certains pays occidentaux cherchant à ménager la chèvre et le chou, mais jusqu'à présent sans résultat, puisque ce que l'on voit, c'est un Erdogan de plus en plus difficile à contrôler et avec un tournant de plus en plus autocratique.
Rappelons enfin, de manière beaucoup plus anecdotique, que l'on parlera doublement de la Turquie en juin, parce que quelques jours avant l'élection présidentielle aura lieu à Istanbul la finale de la Ligue des Champions. Et la dernière fois que ce fut le cas, c'était en 2005. C'était un match légendaire, le fameux Milan-Liverpool 3-3, qui m'avait traumatisé quelques mois, mais je ferme aussitôt la parenthèse. Nous avons parlé de la Turquie, mais il y a 2 pays très importants de l'Union européenne en matière de population et de PIB qui vont connaître des élections législatives à l'automne. Il s'agit de l'Espagne et de la Pologne, avec des enjeux toutefois extrêmement différents. En Pologne, la prochaine élection est majeure pour l'existence même d'une démocratie libérale dans ce pays.
Oui, en Pologne, l'enjeu est simple. Tu as un pays qui est de plus en plus une puissance régionale. La Pologne est clairement la puissance dominante en Europe de l'Est, et avec le rééquilibrage de l'Union européenne vers l'Est, clairement Varsovie joue un rôle de plus en plus important. Ils sont en première ligne dans la crise ukrainienne. Ils ont accueilli, et la société polonaise a fait preuve d'une solidarité extraordinaire en accueillant des millions de réfugiés polonais. Donc la Pologne a tout pour jouer un rôle de plus en plus important. Mais le paradoxe, c'est que tu as au même moment un pouvoir à Varsovie qui est lui-même de plus en plus autoritaire. Tu as un état de droit qui est aussi battu en brèche, avec un système judiciaire et des médias qui sont de moins en moins indépendants. Tu as un parti, donc PiS, le parti Droit et Justice, dirigé par Jarosław Kaczynski, qui termine son second mandat. Et c'est vrai que beaucoup d'analystes considèrent que si ce parti devait remporter une 3e élection consécutive, alors la Pologne serait en fait en voie d'orbanisation. C'est le parallèle qui est souvent fait en Pologne aujourd'hui, c'est-à-dire un régime qui irait de plus en plus, comme celui de la Hongrie, vers une dérive, vers une démocratie illibérale. Contradiction dans les termes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là encore, tu as pas mal de parallèles. D'ailleurs, on l'évoquait avec la situation turque, même si les deux pays sont évidemment dans des situations très différentes. Mais ce sont deux gouvernements qui font face à des situations sur le plan intérieur qui ne sont pas aisées, et donc qui essaient de faire preuve d'un activisme tous azimuts et d'un populisme en politique étrangère, avec le parti Droit et Justice notamment, qui essaie à la fois de mener une double rhétorique anti-russe, mais surtout anti-européenne et anti-allemande en particulier, avec Kaczynski, donc le fondateur du parti Droit et Justice, qui a toujours pour point commun tout au long de sa carrière politique d'essayer d'identifier un ennemi et de coaliser ses électeurs autour de cet ennemi. À un moment donné, c'était la coalition LGBT. Pendant longtemps, c'était les libéraux, les pro-européens. Ça l'est toujours, mais là, en particulier, c'est l'Allemagne, puisque maintenant, la Pologne demande des réparations de guerre au titre de la Seconde Guerre mondiale de 1,3 trilliard d'euros à Berlin. Et puis, tu as également une opposition qui, et c'est là aussi un parallèle avec la Turquie, pour la première fois essaie d'être à peu près unie, avec notamment un grand parti, Plateforme Civique, où à sa tête, tu as Donald Tusk, qui était le président du Conseil européen, qui a longtemps été Premier ministre polonais, qui a décidé de revenir dans le jeu national pour justement tenter de lutter contre le parti Droit et Justice. Et il a fait un peu une coalition avec le maire de Varsovie, qui est un jeune figure montante, Rafał Trzaskowski, qui, lui, se présentera au présidentiel. Et donc, Tusk mènera le combat aux législatives et le maire de Varsovie au présidentiel, avec l'espoir pour l'opposition polonaise qu'ils arriveront à éjecter enfin le parti PiS. Et juste un dernier mot, pour te montrer quand même que la scène politique polonaise est aujourd'hui extrêmement polarisée, il faut quand même se souvenir qu'il y a, je crois, un peu moins de 2 ans, le maire de Gdansk, qui était une grande figure de la politique polonaise, et a été poignardé à mort, Paweł Adamowicz, qui était maire depuis 1998, lui-même un héritier de Solidarnosc. Et donc ça te montre combien le climat est aujourd'hui polarisé en Pologne.
Oui, et Donald Tusk, rappelons-le, était aussi un des patrons du Parti Populaire Européen. Donc c'est une figure de droite libérale, très respectée en Europe, très respectée en Pologne. Son mandat avait été vraiment un mandat d'espoir pour la Pologne. Donc on voit que politiquement, on essaie toujours parfois de traduire ce qui se passe dans d'autres pays avec la situation française. On aurait, c'est bien sûr impossible dans le cas de la Pologne, mais en Pologne, nous aurions finalement une opposition entre une droite ultra-conservatrice, voire nationaliste, et une droite libérale qui mènerait plus largement une plateforme d'opposition. Donc ce sera une élection très intéressante à suivre. On n'a pas encore la date exacte, mais elle sera forcément en fin d'année. En Espagne, l'enjeu est moins crucial, bien évidemment, par rapport à ce qu'on vient de dire sur la Pologne, mais le véritable enjeu est celui de la constitution, ou pas, d'une coalition stable de gouvernement dans un pays au paysage politique bien plus éclaté. Pour rappel, aujourd'hui, la coalition au pouvoir est composée du PSOE, le Parti Socialiste Espagnol, du Premier ministre sortant, Pedro Sanchez, qui est allié à Podemos, qui est une formation d'extrême-gauche, mais qu'on ne peut pas non plus totalement comparer à ce qui serait les Insoumis en France, de la mesure où elle est moins anti-européenne notamment, et un peu moins populiste sur beaucoup de sujets. Mais on a un paysage politique éclaté, puisque outre le PSOE et le Parti Populaire, qui est le parti de la droite traditionnelle espagnole, ces deux partis se sont longtemps partagés le pouvoir au gré des alternances, le paysage politique est désormais composé d'autres forces présentes au Parlement, comme Podemos, qu'on vient de mentionner, qui a su vraiment mobiliser une partie d'électorat de gauche plus radicale et écologiste en Espagne, mais aussi tu as Vox, un parti que l'on pourrait classer à l'extrême droite en France, dont les positions très centralisatrices et parfois très eurosceptiques rendent difficile, sinon impossible, une entente avec le Parti Populaire. Tu as aussi Ciudadanos, qui est un parti libéral de centre-droit, qui serait une version un peu plus à droite, en marche en France, mais qui apparaît un peu en chute libre. Et puis, on a également des formations autonomistes qui envoient des députés au Parlement. Donc, dans ce paysage assez éclaté, il apparaît désormais difficile au Parti Populaire et au PSE d'obtenir seul la majorité absolue des 176 sièges à la Chambre basse espagnole, ce qui induit la nécessité de coalition dans ce régime très, très parlementaire.
Oui, alors tu as dessiné le paysage politique espagnol. C'est vrai que Pedro Sanchez, donc, qui dirige aujourd'hui le pays avec cette coalition de gauche que tu as décrite avec Podemos, semblait jusqu'à il y a quelques mois finalement en position de force pour remporter les prochaines élections qui auront lieu en décembre 2023. Mais tu as un parti de droite qui a su se réinventer. Il y a 6 mois, il était dans un état de crise avec notamment son jeune leader à l'époque, Pablo Casado, qui se divisé avec l'étoile montante Isabel Díaz Ayuso, qui dirige la région autonome de Madrid. Et finalement, ça a conduit à une élection interne, à un changement de leadership. Et tu as une figure intéressante qui a pris la tête du Parti Populaire espagnol, donc le parti de droite, Alberto Núñez Feijóo. Et Núñez Feijóo, c'est pas une étoile montante, c'est un politicien expérimenté. Il vient de Galice, donc la région de la Corogne, de Saint-Jacques de Compostelle, au nord-ouest de l'Espagne. C'est quelqu'un qui a été réélu 4 fois assez triomphalement, avec la majorité absolue dans sa région. Il faut, pour te faire un parallèle, la Galice pour le Parti Populaire Espagnol, c'est un petit peu comme la Bavière pour la CSU en Allemagne, si tu veux faire un parallèle. Et donc Núñez Feijóo arrive à la tête du Parti Populaire en avril. à un moment donné où les sondages sont pas vraiment bons, où ils ont pas eu de grands succès électoraux. Et puis finalement, il est arrivé à redresser le parti assez vite, a notamment trouvé un positionnement où à la fois il est assez centriste, il assume d'être à droite mais en étant centriste, et donc finalement il fait du mal à Vox. Et le Parti Populaire Espagnol a remporté triomphalement les élections en Andalousie il y a quelques mois. Et donc aujourd'hui, tu as un Parti Populaire Espagnol qui semble être en position de force avant les élections qui se dérouleront néanmoins dans quasiment un an. Donc il peut se passer beaucoup de choses. En plus, Pedro Sanchez est pour la première fois en retard dans les sondages, et puis il fait face aussi à une situation économique assez difficile sur le plan intérieur. Les Espagnols sont frappés par la crise énergétique, par l'inflation qui augmente de manière très importante. Et donc tout ça crée une situation où tu pourrais avoir une alternance. Alors, tout ça est intéressant, et notamment pour la raison que tu as mentionnée, c'est que tu es dans une situation où l'Espagne est passée d'un jeu politique bipartisan, où tu avais le Parti Socialiste contre les conservateurs, à un moment où il faut faire des alliances. Alors, tu as certaines régions où ces alliances existent déjà. C'est par exemple le cas en Castille-Léon, où le Parti Populaire dirige, c'est l'ancien maire de Salamanque qui est à la tête de la région, et lui dirige dans une coalition avec Vox. Et tu le disais, à l'inverse, la gauche est aujourd'hui au pouvoir avec Podemos. Ce qui est d'ailleurs un axe sur lequel le combat fait héros, disant que, grosso modo, cette coalition avec Podemos oblige souvent le Parti Socialiste à ne pas être au centre-gauche, mais vraiment aller très à gauche. Donc ce sera des élections importantes, et ce sont des élections d'autant plus importantes que finalement, de manière assez paradoxale, en France, on s'intéresse souvent assez peu à l'Espagne, alors que c'est un pays qui est quand même extrêmement important pour l'Union européenne. C'est quand même la 4e puissance économique de l'Union européenne, la 5e puissance économique européenne si on compte le Royaume-Uni. C'est un pays de quasiment 50 millions d'habitants. C'est notre voisin. Et c'est vrai que toi et moi, je crois qu'on était frappés par le fait qu'autant on s'intéresse souvent beaucoup à l'Allemagne, beaucoup à l'Italie, beaucoup au Royaume-Uni, autant nos médias s'intéressent en fait assez peu à l'Espagne. Et c'est un pays qu'on connaît assez mal, alors qu'il aura d'ailleurs la présidence de l'Union européenne lors du second semestre 2023.
Oui, situation un peu parallèle à celle de la France. Il aura la présidence de l'Union européenne durant une période électorale. C'est ce qu'avait connu la France durant le premier semestre 2022. Et ce n'est jamais une situation idéale. On suit un peu moins l'Espagne, peut-être parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le pays a une certaine stabilité politique, notamment grâce aussi à la décentralisation. Il y a aussi la question des ingrats nations. Ce ne sont pas forcément des figures très hautes en couleur, qui ont une capacité médiatique à briller hors des frontières. Donc cela joue peut-être. C'est quand même une situation intéressante à suivre politiquement, puisque, comme on l'a rappelé, le jeu aujourd'hui est éclaté. Il y a nécessité pour la droite, on va dire classique, traditionnel, il y a une nécessité à trouver de nouvelles alliances. C'est aussi un phénomène important pour la droite en France, même si le jeu institutionnel est bien sûr très différent. Pour la droite en France, c'est intéressant de voir qu'en se renouvelant en profondeur et en renouvelant aussi ses incarnations, avec des personnalités qui sont à la fois nouvelles mais en même temps expérimentées, il y a la possibilité de créer une nouvelle dynamique. Donc il y a aucune fatalité en politique. Donc on suivra aussi l'Espagne. Il y a également d'autres, on ne peut pas être exhaustif sur toutes les élections qu'il y aura en Europe. Il y aura ces prochains jours une élection présidentielle en République tchèque, il y aura des législatives en Grèce durant l'été.
Oui, il y a toujours des élections, mais il y aura effectivement des élections dont on a finalement assez peu entendu parler et qui auront lieu en septembre 2023 en France, puisque le Sénat sera renouvelé pour moitié au scrutin évidemment indirect. Les dernières élections sénatoriales de septembre 2020 avaient abouti à un renforcement de la majorité de la droite et du centre. Tu auras donc là 170 sièges qui seront mis en jeu. Le collège électoral, c'est 162 000 grands électeurs, en immense majorité les délégués des conseils municipaux. Et donc, effectivement, ce sont des élections qui vont être importantes au niveau national. Pour toi, quels sont un petit peu les grands enjeux de ces élections sénatoriales et comment tu les inscris dans le contexte politique et social que connaît la France ?
Ce sont toujours des élections difficiles à analyser, à rendre intéressantes, attractives pour le grand public. Déjà, bien sûr, parce qu'elles concernent un collège fermé, celui des grands électeurs, des élus. Et puis, elles ne concernent que la moitié des départements à chaque fois. Hein. Cette fois-ci, c'est la série 1. Donc, la France est divisée, le pays est divisé entre série 1 et série 2, différents départements. Donc là, cette fois-ci, c'est la série 1 qui est concernée, c'est-à-dire les départements compris entre les numéros 37 et 66, plus tous ceux de la région parisienne, ainsi que certaines collectivités d'outre-mer, comme la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, et puis également les Français établis hors de France. L'essentiel des grands électeurs, bien sûr, est issu des élections municipales de 2020, donc il ne devrait pas y avoir forcément de grands bouleversements dans l'analyse par rapport à ce que tu viens rappeler sur la vague des élections du dernier renouvellement de la série 2, d'autant que les élections régionales et départementales de 2021 ont largement reconduit les sortants. Mais il faudra quand même observer les conséquences de l'apparition et de la progression des élus locaux macronistes, qu'ils soient En Marche, Horizon ou autres, qui pourraient mécaniquement un peu réduire la majorité de droite, mais cela reste à vérifier sur le terrain parce que chaque sénatorial répond à une dynamique locale très précise qui varie énormément selon qu'il s'agisse d'une élection à la proportionnelle ou au scrutin uninominal. C'est une autre complication qu'on oublie souvent des élections sénatoriales, c'est-à-dire le mode de scrutin n'est pas le même selon les départements. Alors ça dépend de la taille du département. Les sénateurs ne sont donc pas tous élus de la même manière. Donc dans un département très peuplé comme Paris, c'est une proportionnelle stricte. À l'inverse, donc, qui favorise les jeux des partis traditionnels. À l'inverse, dans les départements moins peuplés, par exemple la Haute-Corse, eh ben, c'est un scrutin uninominal, classique, avec un sénateur élu. Donc, les dynamiques ne sont pas du tout les mêmes. Il n'empêche que l'élection sera importante parce qu'aujourd'hui, la majorité de droite au Sénat joue un rôle capital, je pense, respecté dans l'écriture de la loi, dans un contexte où le parti présidentiel n'a pas de majorité à l'Assemblée. La droite, aujourd'hui, au Sénat, c'est un peu presque un outil de recentrage et un aiguillon qui évite le blocage institutionnel. Il enrichit les textes en les droitisant, en les centralisant, enfin chacun pourra le qualifier ça comme il le souhaite, mais en tout cas cela rend les textes un peu plus acceptables au groupe LR à l'Assemblée. Donc il y a quand même une importance dans ce contexte très précis de fausse cohabitation, en tout cas de non-majorité. Donc à voir comment tout cela évolue, mais ma question était un peu plus taquine en fait. On parle des sénatoriales et c'est très important, mais je voulais savoir si tu pensais en fait que d'autres élections allaient avoir lieu, parce que les sénatoriales sont certes prévues, mais il y a beaucoup de rumeurs alimentées parfois par le pouvoir à son plus haut niveau lui-même qui parlent d'élections législatives.
Oui, alors tu me connais, Romain, je suis extrêmement mauvais en prédiction. Je ne vais donc pas me lancer dans des analyses d'élections anticipées ou autres. Mais je trouve que c'est quand même un vrai sujet que tu aies une élection présidentielle qui a eu lieu il y a 6 mois et qu'on se pose déjà la question de potentiellement d'élections anticipées, etc. Ça montre quand même qu'il y a quelque chose de très grippé dans notre démocratie. Le fait que dès que tu as un Parlement qui est tout simplement probablement un petit peu plus représentatif du pays qu'il ne l'a été au cours des 5 dernières années, tu te poses la question du fonctionnement de la démocratie et donc de la nécessité potentiellement de recourir à des élections anticipées. Tout ça me laisse assez sceptique dans un climat social qui, par ailleurs, est, comme tu le sais et comme nos auditeurs le savent, très compliqué, très tendu. Je suis assez frappé. Ça fait, comme je disais, on est au tout début du second mandat et pourtant, on a déjà l'impression que ça fait très, très longtemps que ça a commencé. Et effectivement, je crois que quelles que soient les sensibilités politique des uns et des autres, beaucoup se demandent mais comment vont se passer les prochaines années, comment on va aller jusqu'en 2027 et sans troubles, sans tensions majeures, etc. Et ça, je crois qu'au-delà des calculs politiques des uns et des autres, ça soulève quand même des vraies questions sur où en est la société française aujourd'hui, qu'est-ce qui fait encore du lien entre nous et puis plus généralement sur le niveau de notre classe politique et du jeu politique.
Oui, on va pas se risquer au pronostic. La menace de la dissolution, ceci dit, a été agitée par le président de la République lui-même. Il reste, comme il l'appelait, le maître des horloges politiques. Il a un sens tactique, politique certain, qui fait qu'il pourra actionner ou pas cet outil, même si, nous rappelons bien évidemment que le vote d'une motion de censure un éventuel vote d'une motion de censure pourrait faire tomber le gouvernement Borne. Et dans ce cas-là, l'hypothèse d'élection anticipée deviendrait plus plausible. Faut-il encore que les différents partis responsables d'un éventuel vote de cette motion de censure aient intérêt à ce qu'il y ait des élections législatives. Donc on en est très loin. On parle de politique, on a parlé d'élections, mais qui constituent toujours des moments très intéressants à analyser. Mais l'année va être aussi marquée par la poursuite de grandes tendances de fond que l'on avait déjà commencé à observer en 2022, voire même auparavant, notamment en termes de grands conflits géopolitiques.
Oui, je crois que là encore, l'idée n'est pas d'être exhaustif, mais simplement de revenir sur probablement quelques conflits, quelques mouvements structurels qui ont façonné l'année 2022 ou qui ont marqué l'année 2022 et qui vont se prolonger au cours de l'année 2023. Le premier, évidemment, c'est le conflit en Ukraine. Et là, je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Si on prend notre perspective, la question, ça va être de savoir, dans un conflit qui semble devoir durée, quelle va être la capacité de l'Union européenne à demeurer unie, alors qu'on sent déjà des tensions très fortes entre notamment l'Est de l'Europe, les Européens de l'Ouest, etc., alors que probablement le poids de vraiment de l'inflation, de la hausse du prix de l'énergie, etc., va se faire ressentir encore plus durement au premier semestre 2023, à la fois pour les ménages, mais aussi pour nos entreprises, en particulier nos TPE, nos PME. Quelle va être aussi la capacité de l'Alliance transatlantique à maintenir son niveau de coopération assez exceptionnel, avec une Chambre des représentants qui a basculé côté républicain, avec probablement un consensus bipartisan aux États-Unis pour continuer de soutenir l'Ukraine, mais avec des républicains qui ont dit, pour reprendre leur expression, qu'ils ne veulent plus faire de chèque en blanc, même si la visite de Zelensky au Congrès a été extrêmement marquante pour tous les membres du Congrès. Tu vas avoir, au-delà du camp occidental, des dynamiques géopolitiques intéressantes à suivre. Quid de l'axe entre Moscou et Pékin ? Quid du positionnement de Pékin par rapport à ce conflit ? Est-ce qu'on va avoir une Chine qui va vouloir jouer un rôle plus constructif, plus en faveur de la paix, faire plus pression sur Moscou ? Ou au contraire, est-ce que tu vas avoir un certain nombre de pays qui vont continuer d'essayer de trouver un équilibre entre l'Occident et Moscou ? Donc, toutes ces tendances vont être extrêmement intéressantes à suivre, avec des jeux qui sont, même s'ils ne sont pas directement liés au conflit en Ukraine. Il y avait par exemple, et on l'avait évoqué rapidement, la visite de Xi Jinping récemment en Arabie Saoudite. Donc ce genre de jeu entre grandes puissances hors Occident qui va être très très intéressant à suivre. Et puis évidemment, une question qui va se poser à un moment donné, qui est la question de la reconstruction de l'Ukraine. Alors il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui sont menées, de conférences, mais dans un pays en proie à la guerre et où il y a des bombardements constants, il est assez difficile quand même de mettre en place ces mécanismes. Et donc, je pense qu'autour du conflit ukrainien, c'est un petit peu les grandes questions qui vont se poser.
Tu as bien sûr évoqué les grandes questions qui vont se poser. C'est très difficile d'entrevoir des réponses. On peut avoir bien évidemment des souhaits, mais il y a aussi un aspect évident qui est l'aspect militaire. Selon les dynamiques militaires sur le terrain, des rapports de force vont aller dans tel ou tel sens. C'est le cas de tous les conflits. Est-ce qu'on va se hanter sur un conflit lent, quasi à l'arrêt, un peu sans armistice possible, un peu comme tu l'avais évoqué dans l'épisode précédent, en faisant un parallèle avec la guerre de Corée? Ou est-ce qu'il y aura, d'un côté ou de l'autre, et on espère bien sûr en faveur de l'Ukraine, un déblocage lié à des victoires ou à des reconquêtes? C'est là, bien sûr, est impossible à prédire, mais ce sont deux types de dénouements qui existent et on verra bien sûr comment cela évolue. On suivra avec beaucoup d'intérêt et avec empathie également tout ce qui se passe en Iran. Chaque jour porte son lot de nouvelles exécutions, de menaces sur des personnalités. Alors, parfois ce sont des sportifs, parfois ce sont des intellectuels, des acteurs, des écrivains, tout type de personnes qui constituent, on va dire, les forces vives de l'Iran, qui sont soit en exil, soit emprisonnées, soit donc exécutées. C'est un conflit qui met beaucoup de personnes mal à l'aise en France, alors qu'en fait il devrait avoir un relatif consensus pour supporter le combat des Iraniens pour la démocratie, et puis encore plus particulièrement le combat des Iraniennes pour pouvoir vivre librement. On sent quand même toutefois, alors là aussi on se gardera bien de faire des pronostics, que En tout cas, ça faisait depuis des décennies que la vague libérale ne semblait pas aussi puissante.
C'est vrai que l'Iran, c'est un pays qui a connu au cours de l'histoire récente un certain nombre de révoltes, d'insurrections. On peut penser en 1999 à la révolution estudiantine. En 2009, tu avais eu ce qu'on avait appelé la vague verte à la suite des soupçons de fraude lors de l'élection présidentielle et de la réélection d'Ahmadinejad. En 2019, tu avais eu des mouvements économiques contre eux, notamment la terrible situation économique, l'inflation, le coût de la vie, etc., qui s'était, et puis la misère dans des grandes parties du pays qui s'était déclenchée. Mais d'après les experts de l'Iran, ce que ces mouvements avaient en commun, c'est que c'était des soulèvements qui cherchaient à faire évoluer le système. Or là, tu es depuis maintenant un peu plus de 100 jours, puisque le 24 décembre marquait le 100e jour du mouvement de protestation. Tu es non pas dans un mouvement qui vise à réformer le système, mais qui vise à le renverser. Et donc ça, c'est un vrai changement. Et tu es avec des gens qui sont, en fait, à travers toutes les classes sociales, à travers toutes les régions du pays, et les zones rurales, les zones urbaines. C'est un mouvement, en fait, qui se diffuse un petit peu partout. Et c'est aussi une vraie différence par rapport à des mouvements précédents, où c'était plutôt parfois les élites urbaines, ou intellectuelles, ou étudiantes, etc. Là, c'est vraiment un mouvement qui s'est diffusé, puisque notamment Mahsa Amini, cette jeune femme qui avait été qui était morte à la suite notamment de la torture qu'elle avait subie de la part du régime iranien, c'était une femme de classe très modeste qui venait avec son père et son frère à Téhéran d'une région kurde d'où elle était originaire. Et pour les Iraniens, ça aurait pu être n'importe quelle Iranienne. Ça aurait pu être leur sœur, leur cousine, leur fille. Et donc, c'est aussi ça qui avait créé un mouvement très très fort. Et donc, il est évidemment, comme tu l'as dit, extrêmement dur de prévoir l'évolution du mouvement. Mais ce qui est frappant, c'est que tu as aujourd'hui un régime qui a choisi la voie de la répression, et à l'inverse, une population qui se révolte et qui est prête, semble-t-il, à aller jusqu'au bout. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui va falloir suivre de très très près. Le vent de colère ne semble pas vouloir retomber. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, l'Iran a aussi un rôle géopolitique majeur. On le voit évidemment dans la région, mais on le voit aussi dans le cadre de la guerre en Ukraine, où les Russes s'appuient notamment sur des drones iraniens. Et donc, voilà, ce qui se passe au niveau de l'Iran va avoir des répercussions extrêmement importantes pour la région.
Et c'est assez vivifiant de voir que l'idée de liberté est si dynamique. Voilà, les gens se battent, meurent pour la liberté, pour la démocratie, pour la possibilité de vivre de manière relativement laïque, et en tout cas ne plus vivre sous le joug de fondamentalistes religieux. Voilà, il y a quand même des parties du monde, et donc beaucoup de parties du monde, où l'idée de liberté est quand même très vive. Et d'ailleurs, cela fait un peu, malheureusement, grincer des dents lorsqu'on voit certains beaux esprits en France, notamment au sein de la mouvance du gauchisme culturel, qui sont toujours les premiers à critiquer, à cracher sur les États-Unis dès qu'il y a une loi un peu rétrograde dans un État ou un comté ou qu'il y a des exécutions, et qui sont quasiment en mode silence radio sur un combat féministe et démocratique majeur en Iran. Là aussi, je ferme la parenthèse, on ne va pas faire la comparaison avec la France, mais quand même, certains silences sont totalement éloquents. L'autre grand, grand, grand sujet qu'on a souvent évoqué, mais qui, je pense, rentre dans une phase, à mon avis, beaucoup plus dangereuse, en tout cas beaucoup plus décisive, c'est la montée des tensions entre États-Unis et Chine sur fond de menaces qui se précisent sur Taïwan.
Oui, alors tu dis qu'elle rentre dans une phase plus dangereuse. Là encore, je pense que le jeu des prédictions est extrêmement compliqué, mais je pense qu'on peut, ça peut aller dans deux directions. C'est-à-dire que tu as quand même eu récemment, en marge du sommet du G20, une rencontre entre Xi Jinping et le président Biden. Tu as une volonté de renouer un dialogue sur un certain nombre de sujets de la part de l'administration Biden. Mais c'est vrai qu'à côté, en revanche, tu as un certain nombre de mesures, de politiques qui sont mises en œuvre, notamment par les Américains, pour de plus en plus tenter de, on va dire, non pas encercler la Chine, mais tout du moins, par exemple, l'empêcher d'accéder à certaines technologies, essayer d'avoir une économie et un système économique qui est de plus en plus autonome de la Chine, etc. Donc tout ça peut effectivement générer un certain nombre de tensions. Tu as aussi incontestablement des tensions très fortes en mer de Chine et puis avec Taïwan. Mais je pense que tout le monde sait quand même qu'aussi bien à Pékin qu'aux États-Unis, que ça ne serait pas du tout dans leurs intérêts d'avoir un conflit. Et ce n'est pas dans l'intérêt non plus de Xi Jinping d'entrer en conflit avec les États-Unis et d'entrer dans une zone d'incertitude très grande. Donc effectivement, il va y avoir un certain nombre de tensions. Ce qui va être intéressant, c'est de voir malgré tout comment l'Union européenne va aussi se positionner dans ces tensions entre Pékin et Washington. Est-ce que les Européens vont de plus en plus aligner leur politique avec les États-Unis? J'en suis pas nécessairement certain. Je pense qu'il va y avoir une volonté de ne pas faire preuve de naïveté à l'égard de Pékin, mais il y a quand même une volonté claire des Européens de garder un certain nombre de canaux de communication, d'autant plus que l'administration Biden elle-même n'est pas dans une vision complètement jusqu'en boutiste comme pouvait l'être Trump à l'égard de Pékin. Il y a aussi la volonté de coopérer avec la Chine sur un certain nombre de sujets. Il y a une volonté claire des Européens de ne pas avoir un découplage complet de l'économie chinoise. Ils comprennent aussi que ça pourrait être très dangereux, en plus dans un contexte déjà économique très difficile pour l'Europe, d'avoir en plus un découplage complet de la Chine. Donc tout ça va être une question de nuance, d'équilibre à trouver. Je pense que les Européens veulent effectivement durcir à certains égards leur position à l'égard de Pékin pour éviter notamment que la Chine mette face main basse sur des actifs stratégiques en Europe ou augmente son influence en Europe ou dans d'autres régions stratégiques pour l'Europe comme l'Afrique. Mais en même temps, ils ne veulent pas du tout rentrer dans une logique de confrontation avec Pékin. Et donc, tout cet équilibre va être intéressant à analyser.
Oui, il faudra trouver un bon équilibre. Ça demande de la finesse. Moi, je vais prendre un exemple beaucoup plus concret, très particulier, celui des médias. Je suis parfois un peu étonné de la manière dont certains dirigeants européens communiquent beaucoup, et souvent de manière assez véhémente, assez sévère, de manière préventive envers les politiques de Twitter, et avec beaucoup de leçons données à son patron, Elon Musk. Et en revanche, silence radio sur TikTok. Voilà, je trouve que le parallèle est parfois un peu inquiétant et pas totalement rassurant, tu vois, quant à cette capacité de réalisme et de naïveté qu'ont parfois les technocraties en Europe, mais on verra. En tout cas, c'est de la dentelle diplomatique et commerciale. Intéressante à suivre, sachant que l'UE va avoir une année globalement assez chargée, puisque c'est la dernière année, on va dire, utile pour le Parlement européen, 2023, puisqu'en 2024, il y aura les élections européennes. Donc 2023, ça veut dire un agenda législatif assez chargé. Tu me connais, j'espère qu'il ne sera pas trop chargé non plus, puisque je crois que, de même qu'en France, il ne faut pas trop emmerder les Français, je crois qu'au niveau européen, il ne faut pas trop emmerder les Européens. Mais en tout cas, on aura un agenda législatif chargé dans le cadre d'une présidence qui commencera au premier semestre par la Suède.
Tout à fait. Alors, la question n'est pas tant qu'il soit chargé, mais surtout qu'il soit pertinent. Et là où je te rejoins, c'est qu'il aille sur des sujets, parce que l'Union européenne a quand même beaucoup de sujets où elle doit renforcer ses politiques et être plus stratégique pour renforcer sa compétitivité, renforcer la sécurité à ses frontières. Par exemple, tu vois, un des sujets qui va être sur la table en 2023, c'est la question migratoire. Est-ce qu'on va enfin être capable de bâtir une politique migratoire commune? C'est quand même fou. La crise syrienne a eu lieu en 2014-2015, la crise migratoire. À l'époque, on s'était aperçu qu'il était absolument indispensable, si on voulait contrôler nos frontières, contrôler les flux migratoires en provenance soit d'Afrique, soit du Moyen-Orient, d'avoir une politique migratoire digne de ce nom. On est début 2023, il n'y a toujours pas de politique migratoire européenne. Donc un des grands enjeux, c'est par exemple sur ce genre de sujet, qu'on passe une législation. Je suis d'accord avec toi, il y a d'autres législations cosmétiques dont on pourrait se passer, mais là-dessus, il y a quand même un vrai, vrai sujet. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Union européenne, elle marche par cycle de 5 ans. Un Parlement européen est élu et derrière, tu as un cycle de 5 ans. Le Parlement européen a été élu en 2019. Nouvelle Commission européenne est entrée en fonction à ce moment-là. Et en fait, les différentes présidences de l'Union européenne qui arrivent maintenant, en fait, héritent déjà d'un agenda législatif qui a été amorcé par d'autres présidences. Et donc, la présidence suédoise qui vient de prendre les rênes, début janvier, à la tête du Conseil de l'Union européenne, hérite d'un grand nombre de dossiers législatifs sur lesquels elle va devoir avancer. Alors, je parlais de la question migratoire, mais ce sont aussi, en politique commerciale, un certain nombre d'instruments de défense commerciale, mais aussi des accords de libre-échange sur lesquels ils veulent avancer. C'est sur la question du digital que tu venais d'évoquer avec Twitter, aussi, par exemple, sur l'intelligence artificielle. C'est un dossier aussi sur lequel l'Union européenne essaie de bâtir une politique commune de régulation, des normes environnementales. Évidemment, ça fait partie de l'agenda européen, c'est au cœur de l'agenda européen. Donc la Suède et puis ensuite l'Espagne au second semestre essaieront d'avancer là-dessus. Mais comme tu le disais très bien, c'est la dernière année utile parce que, en fait, à partir de fin 2023, tu vas rentrer dans une période de campagne électorale pour les prochaines élections européennes qui auront lieu mi-2024. Et donc, c'est vrai qu'on considère souvent que la dernière présidence, ça sera en l'occurrence au premier semestre 2024, la présidence belge, est une présidence un peu de transition. Et donc, c'est pas les présidences où les dossiers législatifs se font parce que il y a beaucoup de parlementaires qui sont à ce moment-là en campagne. Alors, juste un mot quand même sur la présidence suédoise. Donc, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, qui est un conservateur qui est arrivé récemment au pouvoir, a publié le 14 décembre dernier les priorités de la présidence suédoise. Et c'est des priorités qui sont finalement pas très étonnantes parce que, on le sait, la Suède, c'est un pays de tradition plutôt libre-échangiste au niveau européen, notamment par rapport à la France. Donc, il veut avancer sur un certain nombre d'accords commerciaux. Il veut évidemment, et ça c'est quand même important, il l'a rappelé, que le soutien à l'Ukraine dont on parlait il y a un instant demeure, et donc là la Suède va beaucoup pousser là-dessus, et on rappelle quand même que la Suède est aussi candidat pour rejoindre l'OTAN. Et puis, évidemment, une question qui sera intéressante de regarder, c'est que la Suède, historiquement, a été un pays très pro-européen depuis son adhésion à l'Union européenne en 1995, mais il y a aujourd'hui une coalition au pouvoir en Suède qui comprend les démocrates de Suède, parti d'extrême droite, parti anti-européen, et ça sera intéressant de voir comment ils vont, ou pas, façonner l'agenda de la présidence suédoise.
Voilà pour l'Europe et les quelques grands défis qu'il y aura en 2023. N'oublions pas non plus, et parlons-en quelques instants, des conflits qui ont été largement oubliés par les médias en 2022, mais qui existent bien et qui continuent à avoir des développements souvent tragiques. Bien sûr, on va commencer par l'Arménie, avec une situation en ce début d'année très critique. Là, on parle de l'intégrité du territoire arménien qui est menacé, voire même une menace sur la nation arménienne à moyen terme. Il y a l'Arménie, donc, mais il y en a d'autres. Il y a aussi l'Éthiopie et le Yémen, dont on parle peu et qui pourtant concernent des centaines de milliers de victimes.
Oui, alors, effectivement, donc, l'Arménie, on était revenu longuement sur la situation au Karabakh dans un épisode précédent, mais c'est vrai que, depuis quelques semaines, les Azéris bloquent le corridor de la Chine, qui est l'unique voie d'accès des Arméniens au Karabakh vers l'extérieur. Et donc, c'est la question et c'est la survie, quasiment, tu le disais, de 120 000 Arméniens qui est en jeu dans un conflit où tu as certes l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais tu as une Russie qui serait censée jouer le rôle un petit peu de force, de tampon, mais qui, dans le contexte de la guerre en Ukraine, en fait, ne fait quasiment plus rien sur le terrain et a un petit peu perdu ce rôle. Une Turquie, en revanche, d'Erdogan, extrêmement, extrêmement virulente et qui veut recréer un corridor turcophone et donc soutient massivement l'Azerbaïdjan. Tout ça crée une situation extrêmement, extrêmement difficile. Et c'est vrai que, du fait de nos liens historiques avec l'Arménie, la France essaie de jouer un rôle, mais c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, les dernières négociations qui devaient se dérouler à Bruxelles entre le leader azéri Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ont été annulées par les Azéris parce qu'elles ne voulaient pas de la présence du président Macron et de la France lors de ces négociations. Alors, tu as évoqué la question éthiopienne et le Yémen. Quelques mots, parce que c'est effectivement des conflits dont on parle quasiment jamais, qui sortent un petit peu du radar. Et il y a quasiment, en fait, un sentiment qui est terrible. Donc, par exemple, un pays comme le Yémen, mais on pourrait dire la même chose d'Haïti, c'est que finalement, on s'est habitué à ce que ces pays connaissent en permanence l'horreur. Et donc finalement, il y a quasiment un réflexe par rapport à ces pays qui est de dire « mais ça ne changera jamais ». Or, en fait, ce qu'on oublie, c'est que, et tu le disais, derrière ces conflits, il y a des millions de personnes qui souffrent, qui sont en état de malnutrition, qui perdent la vie. Alors l'Éthiopie, il y a eu des développements récents qui sont plutôt positifs, parce que après 2 ans de conflits qui ont créé plus de 2 millions de déplacés, centaines de milliers de personnes proches de la famine, et une des pire crise humanitaire au monde, tu as un accord qui a été trouvé le 2 novembre à Pretoria entre les forces rebelles du Tigré, donc la province au nord de l'Éthiopie, et le gouvernement fédéral éthiopien dirigé par Abiy Ahmed. Et pourtant, tu as toujours des exactions au moment où on parle qui sont commises, parce que là aussi, c'est une guerre de proxy. Tu as notamment l'armée érythréenne qui a commis des exactions terribles sur le territoire de Tigré. Et puis tu as également des milices qui viennent d'autres régions, et notamment des régions voisines de l'Amara et de l'Afar, qui commettent des exactions. Donc même si on a l'impression qu'on voit, on voit une sortie de crise, et puis là, tu as pour la première fois depuis 2 ans une délégation du gouvernement fédéral d'Addis Abeba qui s'est rendue en Tigré, la situation demeure très compliquée. Le Yémen, alors là, l'ère de violence a débuté en septembre 2014. Là encore, hein, guerre de proxy, c'est les guerres les plus terribles, parce que c'est une guerre civile, mais où tu as d'un côté les Houthis soutenus par l'Iran, et puis, si je dois résumer simplement, le gouvernement fédéral qui a été soutenu par une coalition dominée par l'Arabie Saoudite. Alors aujourd'hui, l'Arabie Saoudite essaie de se retirer de ce conflit, et notamment MBS, donc ce sont les Émirats Arabes Unis qui se retrouvent plutôt en première ligne, mais c'est un conflit qui a fait quand même, jusqu'à présent, juste pour rappeler les chiffres, c'est quand même important de le faire parfois, c'est plus de 3 millions de déplacés, plus de 150 000 morts, et aujourd'hui, sur les 30 millions de personnes que compte le pays, 23 millions ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, et plus de 2 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Donc la situation est absolument terrible, et là on ne voit pas de porte de sortie. Et puis, je l'ai évoqué très rapidement, il faut quand même avoir une pensée pour la situation en Haïti, où là, pareil, la situation tant humanitaire que politique est terrible, à tel point que le gouvernement, complètement impuissant, appelle à une intervention extérieure, ce qui te montre le niveau de tragédie sur le terrain quand tu penses quand tu sais combien les interventions extérieures par le passé ont été tragiques à Haïti, pour que le gouvernement aujourd'hui appelle les puissances extérieures à intervenir, c'est que la situation est évidemment et absolument terrible.
On aimerait être plus optimiste, parce que nous sommes, je pense, des personnes très très optimistes par nature. On aimerait être plus optimiste sur la situation internationale. On aimerait également l'être sur la situation intérieure française. Il y a bien sûr des signes économiques, notamment liés au chômage ou à la reprise de l'activité, qui vont dans le bon sens. Mais globalement, je ne sais pas quel est ton sentiment là-dessus. On a quand même l'impression que ce qui va agiter l'année, c'est une augmentation des tensions, des tensions sociales en France. La montée aussi, alors c'est un sujet qui ne cesse de monter, qu'il va falloir suivre, de nouvelles radicalités. Je pense notamment à un certain, alors c'est pour l'instant extrêmement minoritaire et marginal, mais un certain éco-terrorisme. Et puis, globalement, toujours la question de la place de l'État et de la capacité de l'État, des services publics, à jouer ou pas leur rôle. Et là, encore une fois, je ne veux pas du tout sembler catastrophiste, mais il y a quand même une série d'événements. Alors, certains, il y a des grèves, l'autre a des dysfonctionnements, notamment dans le domaine de la santé, je pense que c'est le domaine le plus essentiel, qui parfois font craindre un grand effondrement. Et on l'a vu dans de nombreux pays, à travers l'histoire, dans lesquels il y a eu un relatif déclin économique, lié à de l'inflation, lié à de la dette, qui a duré sur plusieurs années, et puis, à un moment donné, tout s'accélère. Alors, bien évidemment, il faut non seulement pas souhaiter ça, et puis essayer d'éviter de l'imaginer, mais c'est quand même une hypothèse qu'on ne peut pas totalement écarter.
Oui, alors bon, tu as dressé un tableau à la fois sombre, mais probablement assez réaliste de l'état du pays, sur lequel j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que aujourd'hui, il faudrait être aveugle pour pas faire le constat d'une déliquescence du lien social en France, d'un affaiblissement toujours plus grand de l'État et de tensions sociales et autres toujours plus fortes. Et pourtant, il y a, je crois, des motifs d'espoir sur lesquels il faut aussi revenir et sur lesquels on peut bâtir. Il y a quand même énormément de Français, et j'espère toujours une majorité, qui au quotidien se battent pour essayer de, pas simplement faire vivre leur famille au mieux et vivre dans la dignité, mais aussi permettre à leur territoire d'exister, de se développer. Alors, on parle souvent des, on rend souvent hommage dans ce podcast aux élus locaux, mais c'est aussi tous les gens qui s'engagent dans le milieu associatif. C'est mille formes d'engagement où on voit des gens qui essaient de se battre. Alors, c'est pas eux dont on parle dans les médias, c'est pas eux dont on parle sur les réseaux sociaux, mais je crois que c'est quand même la majorité des Français. Et la question, c'est comment est-ce que finalement ces énergies qui sont plus positives, ces gens qui sont plus discrets que les activistes que tu as mentionnés, qui sont moins extrêmes, qui essaient d'avoir une vision plus nuancée, de vivre de manière digne et sans se nourrir de la haine des uns et des autres, comment ces gens-là tu les mets en valeur et comment tu bâtis avec eux. Et là où il y a quand même un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui tu n'as pas une classe politique malheureusement qui s'appuie sur ces gens-là la plupart du temps. C'est une classe politique qui souvent rebondit sur les débats menés par les extrêmes, les uns les autres, et qui d'ailleurs, elle-même, classe politique, qui devient de plus en plus activiste et de moins en moins responsable. Il suffit de regarder l'Assemblée nationale à cet égard pour s'en convaincre. Donc voilà, mais là où je vois quand même des motifs d'espoir, c'est que voilà, il y a quand même énormément de gens qui travaillent dur dans notre pays, qui veulent s'en sortir, qui veulent bâtir un avenir meilleur pour notre pays, pour leur territoire, et ça au-delà des clivages politiques. D'ailleurs, pour ces gens-là, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas nécessairement en politique qu'on fait le plus changer les choses, et les partis veulent plus dire grand-chose pour ces personnes-là. Donc la question, c'est comment on s'appuiera sur ces Français pour bâtir quelque chose de différent.
Quand on voit la France, le pays, je suis d'accord avec toi, il y a mille raisons d'être positif, d'être optimiste, ne serait-ce qu'une seule raison. Je dirais que tout ce que le pays a gâché, gaspillé ces dernières décennies dans un social-étatisme très confus, la France est toujours là, la France est toujours une grande puissance, la France est toujours un pays innovant, donc, et la France est toujours un pays attirant. Donc je crois que le pays est riche, et donc il y a de quoi être optimiste. C'est là où il y a de quoi être beaucoup plus sceptique, mais adviendra ce qu'il devra advenir, c'est sur un effondrement de l'État, au sens large du terme, et de son incapacité à remplir ses fonctions les plus essentielles. La sécurité, les infrastructures, attention, les infrastructures, on en a déjà parlé pour les États-Unis, mais c'est des choses qu'on avait aussi parlé pour certains réseaux de communication en France, notamment ferroviaire, c'est des choses qui peuvent s'effondrer extrêmement rapidement. La sécurité, on sait très bien que certaines étincelles peuvent provoquer des énormes problèmes, des énormes émeutes. On a eu un avant-goût lors des émeutes qu'il y a pu avoir à Paris après le meurtre raciste de personnes kurdes, de personnalités qui, je pense, sont insoupçonnables de racisme ou de négativisme, comme des François Hollande ou des Gérard Collomb, qui mettent en garde donc contre une possibilité qu'on se retrouve dans des affrontements forts entre communautés, puisque maintenant le concept de communauté a totalement été intégré à la France, malgré son modèle, entre guillemets, républicain. Ça fait partie des choses qui vont inévitablement compter cette année. Mais il y a de quoi, comme tu le dis, il faut être optimiste, à la fois de manière individuelle et collective. Et donc, pour être plus léger et peut-être aussi plus optimiste, il y a un élément qui nous rassemble tous, c'est le sport. Alors, on pourrait penser qu'après une année de Coupe du Monde de foot exceptionnelle, et puis avant les JO de 2024 à Paris, on pourrait penser que 2023 sera l'occasion de reprendre un peu son souffle. Mais non, puisque outre la Coupe du Monde de foot féminin qui va se tenir en Australie, en Nouvelle-Zélande cet été, et qu'il faudra bien sûr impérativement suivre, il y aura aussi un autre élément que tu attends particulièrement et que je vais quand même essayer de suivre un tout petit peu, rien que pour qu'on puisse en parler, c'est la Coupe du Monde de rugby qui se tiendra en France.
Tout à fait, Coupe du Monde qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre 2023. Et c'est la 10e édition de la Coupe du Monde de rugby, puisque la première a été disputée en 1987. C'est comme la Coupe du Monde de football, c'est tous les 4 ans. Ça n'est pas la première fois qu'elle se déroule en France, puisque la France avait déjà organisé la Coupe du Monde en 2007. Elle se déroulera à travers 9 stades. Et je pense que ce sera un moment, même si on n'en parle pas énormément aujourd'hui, qui sera un très beau moment, une très belle fête populaire. La France arrive avec une très belle équipe. Je pense qu'on a rarement été autant en mesure de remporter la Coupe du Monde. Ça ne veut pas dire qu'on est les favoris. Il y a d'autres très belles équipes. Je pense à la Nouvelle-Zélande, aux Springboks. Évidemment, les Anglais qu'il ne faut jamais sous-estimer. L'Irlande qui a une très belle équipe. Mais la France, dirigée par Fabien Galthié, a effectivement une très très belle équipe. Bon, tu connais ma passion pour le rugby, hein, et mon attachement, même si c'est très difficile en ce moment de demeurer supporter de l'ASM, étant donné la saison catastrophique que l'on fait. Mais bon, passons. On est supporter même dans les temps difficiles. Mais en tout cas, ça va être un bel événement. C'est aussi un événement qui marque, et c'est quelque chose dont je voulais parler avec toi. On a beaucoup parlé. Tu évoquais récemment la Coupe du Monde de football. On a vu toutes les polémiques autour des revenus générés par la Coupe du Monde de football, par la FIFA. Tu mentionnais le documentaire FIFA Uncovered que tu avais vu sur Netflix, que tu recommandais et que j'ai vu depuis. Et ta recommandation était juste. Un documentaire absolument passionnant. Mais c'est vrai que le rugby lui-même est un sport qui a connu des évolutions extrêmement fortes et rapides au cours des dernières années. Évidemment, la professionnalisation dans les années 90 du monde du rugby, de plus en plus d'argent injecté dans le rugby. On a un championnat en France qui est un championnat reconnu mondialement, le top 14, mais aussi au niveau international, et des revenus générés par la Coupe du Monde de rugby qui est donc dirigée par l'équivalent de la FIFA qui s'appelle World Rugby, qui ne cesse d'augmenter année après année. Et on pense que la Coupe du Monde de rugby en France établira aussi de nouveaux records.
Eh bien, c'est à souhaiter. Deux choses qui me frappent. Alors moi, j'ai du mal à parler de rugby parce que je suis monogame en termes de passion. Enfin, je suis monogame dans tout. J'embrasse.
J'espère.
Mais je suis aussi en termes de passion pour le sport. J'aime trop le foot pour être totalement passionné par le rugby. Ceci dit, il y a deux choses qui me frappent. Donc, tout d'abord, tu l'as mentionné, c'est la question de la professionnalisation du rugby. On pourrait faire peut-être un parallèle entre l'organisation World Rugby et FIFA. Mais l'autre chose qui me frappe et qui rejoint un peu notre raison d'être optimiste et fier pour la France, c'est quand même globalement la force de la France dans quasiment aujourd'hui tous les sports collectifs. Qui est d'autant plus, je dirais, étonnant, parce que c'est assez récent pour certains sports. Aujourd'hui, en foot, depuis 20 ans, la France est probablement la meilleure nation du monde. C'était pas le cas dans les décennies précédentes. Il y a, je trouve, un paradoxe entre un pays qui n'est pas traditionnellement, culturellement, une grande nation de sport. Je parle d'un point de vue culturel. Tu compares la force que peut avoir le football dans les pays latins, qui fait figure de religion, la force de économique de certains sports collectifs en Amérique du Nord, on n'en est pas du tout là en France. Donc il y a effectivement un retard, si tant est que ce soit un retard, pour une relativement faible culture sportive traditionnelle, mais une grande force, une grande efficacité dans quasiment tous les sports. C'est une sorte de paradoxe. J'espère que le rugby ne nous fera pas mentir.
Non. Et tu évoquais d'ailleurs les États-Unis et leur rapport au sport, leur puissance financière. Il est intéressant, juste à titre anecdotique, mais de noter que la Coupe du Monde de rugby 2031 se déroulera aux États-Unis parce que le rugby veut clairement élargir ses marchés et considère que les États-Unis, plus grand marché commercial sportif au monde, sont une étape indispensable. On a évoqué un certain nombre d'élections, mon cher Romain. Il y a une élection quand même qui va se dérouler en mars 2023, plus précisément le 16 mars 2023 à Kigali, et sur laquelle il y a un peu moins de suspense, puisque le candidat est unique, candidat à sa réélection à la tête de la FIFA, Gianni Infantino.
On aura l'occasion de reparler parce qu'il y a cette élection, mais cette élection sera liée au processus de décision de l'organisation de la Coupe du Monde de football 2030, où il y a des candidatures aujourd'hui extrêmement nombreuses dans tous les continents. Celle qui est favorite, c'était celle qui concernait l'Uruguay, puisque la première Coupe du Monde a eu lieu en 1930 en Uruguay, et donc pour marquer le centenaire, ça aurait été un beau geste. Or, aujourd'hui, c'est compliqué pour un pays comme l'Uruguay d'organiser seul une telle compétition, donc il y a un projet groupé de plusieurs pays d'Amérique du Sud, Uruguay, Chili, Argentine et Paraguay, je crois aussi. Il y a aussi une candidature en Europe sur le papier qui est assez particulière, puisque c'est une candidature conjointe entre l'Espagne et le Portugal. Tu vas me dire pourquoi pas, ce sont deux pays proches. Mais il y a un troisième acteur qui aujourd'hui a rejoint cette candidature, c'est l'Ukraine. Voilà, qui n'est pas géographiquement tout proche de la péninsule ibérique. Donc là, c'est une candidature plus politique. Et puis bien sûr, il y en a d'autres en Asie, en Afrique, comme le Maroc. Donc ça fera partie des choses à suivre. Mais il y aura beaucoup d'événements plus ou moins intéressants et anecdotiques cette année. On va pas en faire la liste. Il y aura le 6 mai pour toi qui a un lien privilégié avec le Royaume-Uni. Il y aura le couronnement du roi Charles III d'Angleterre. Il y aura également les journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu en août à Lisbonne, mais aussi de manière peut-être beaucoup plus importante, et je parle de manière très, très subjective. Il y aura l'inauguration, normalement, tant attendue et espérée, de la Maison Gainsbourg, rue de Verneuil, à Paris. Et puis, pour faire une passe vers l'Auvergne, il y aura les célébrations du 400e anniversaire de la naissance d'un des plus grands génies français, Auvergnat, donc, en la personne de Blaise Pascal. On a célébré les 400 ans de La Fontaine en 2021, les 400 ans de Molière en 2022, et là on se dit que dans les lettres comme dans le foot, il y a vraiment des générations dorées. Donc j'espère que 2023 sera aussi l'occasion de faire davantage connaître Pascal, qui est un penseur parfois difficile, mais à mon avis ô combien précurseur, précieux, mais je crois qu'on en reparlera dans des prochains épisodes, je pense.
Tout à fait. Alors Romain, il est temps maintenant de venir à nos coups de cœur.
Alors quel est le tien cette semaine? Parce que tu étais parti sur des guerres et du patrimoine. Est-ce que tu es aussi dans l'évasion encore cette semaine?
Oui, alors Romain, c'est effectivement une autre forme d'évasion dont je souhaitais parler aujourd'hui. C'est en revenant sur la vie d'un explorateur, peut-être le plus grand des explorateurs, Magellan. On connaît tous son nom, mais parfois on connaît un petit peu moins sa vie. Or, il y a un très beau documentaire de François de Ribérol que l'on peut visionner sur Arte, qui revient sur sa vie, et puis évidemment surtout la très belle biographie que lui consacre Stéphane Zweig sur cet explorateur. Et c'est vrai que Romain, ce que j'ignorais et ce que j'ai découvert en lisant à la fois le texte de Zweig et en revoyant ce documentaire, c'est que Magellan, donc, était portugais comme on le sait, mais était en fait considéré comme un traître. Parce que, après avoir combattu pour le Portugal aux Indes pendant quelques années, en faisant preuve de grande loyauté pour son roi, il n'avait été traité qu'avec indifférence. Et donc, considérant qu'on lui manquait de respect, il avait décidé de se mettre au service du roi d'Espagne, du roi de Castille, le futur Charles Quint, et en lui promettant d'être celui qui découvrirait le passage au sud de l'Amérique, vers le Pacifique, océan qui était alors inconnu, et puis qui serait celui qui mettrait sous domination espagnole les îles Moluques, parce que aux îles Moluques, c'était là à l'époque où on pouvait, c'était le seul lieu où on pouvait trouver les clous de girofle. Or, les clous de girofle avaient la valeur de l'or à l'époque, et il suffisait de ramener un navire rempli d'épices pour faire la fortune d'un roi, tellement les épices, noix de muscat et autres, étaient chères. Et d'ailleurs, la biographie que consacre Zweig à Magellan commence par ces lignes: au commencement étaient les épices. Et donc, c'est aussi la vie de Magellan, ça permet de revenir là-dessus. Et donc, c'est une vie, rien n'a été épargné à Magellan quand il est parti, parce que, évidemment, il suscitait la jalousie des Espagnols et des capitaines espagnols. Donc, il part avec cinq navires, mais il fait face à des mutineries, à des révoltes, etc. Et finalement, il va arriver à réussir. Alors, il perdra la vie, mais il réussira cet exploit extraordinaire. Et peut-être, je voulais mentionner deux phrases dans le texte de Zweig, qui, à mon avis, résume très bien l'exploit de Magellan. Zweig, à un moment, écrit: « Dans les grands faits de l'histoire, il y a toujours, parce qu'il s'élève tellement au-dessus de la commune mesure, quelque chose d'incompréhensible, mais ce n'est que grâce aux exploits incroyables qu'elle accomplit que l'humanité retrouve sa fin en soi. » Très belle phrase, je trouve, de Zweig. Et puis une autre qui dit, à travers la vie de Magellan, Zweig écrit « Qu'une idée animée par le génie et portée par la passion est plus forte que tous les éléments réunis, et que toujours un homme, avec sa petite vie périssable, peut faire de ce qui a paru un rêve à des centaines de générations une réalité et une vérité impérissables. » Deux, je trouve, très belles phrases qui reviennent sur la vie de Magellan et qui nous rappellent une époque où, aussi anachronique que cela puisse sembler, à l'époque, le monde s'était divisé et avait été divisé par l'Espagne et le Portugal en deux sphères d'influence, ce qui aujourd'hui semble absolument incroyable. Mais je crois, mon cher Romain, toi, que tu voulais aujourd'hui revenir dans ton coup de cœur sur une série qui t'a particulièrement plu.
Oui, alors c'est la série The Offer, et c'est une série, chose rare, que j'ai bingé en quelques jours sur la nouvelle plateforme Paramount+. On a parlé du parrain, nous y sommes. C'est une série qui raconte de manière vraiment légère et tragicomique le tournage rocambolesque et chaotique du parrain. Donc il y a quelques mois, dans un épisode précédent, à l'occasion de la mort de James Caan, Nous avions évoqué notre amour pour la trilogie du parrain et puis pour tout ce que ce film peut représenter, tout ce qu'il peut raconter de l'Amérique, de la famille, de l'immigration, du pouvoir. Et puis nous avions mentionné le tournage extrêmement compliqué du parrain entre remise en cause par les propriétaires de la Paramount, remise en cause des choix artistiques de Francis Ford Coppola, des problèmes de casting, des problèmes budgétaires, une relation compliquée avec la pègre. Eh bien, The Offer, cette série, raconte en 10 épisodes absolument tout cela, avec comme figure centrale, outre le producteur du parrain, Al Ruddy, qui s'est mis en quatre et même bien plus pour permettre à ce film de voir finalement le jour, de défendre les partis pris de Coppola, puis pour gérer les relations avec la mafia d'une part et les bureaucrates des studios de production d'autre part, donc outre le producteur Al Ruddy, tout le casting du parrain. Et ce point de vue est particulièrement intéressant et personnel, car cette série, The Offer, est en partie produite par Al Ruddy lui-même, qui est toujours vivant, il a plus de 90 ans, et il a eu, après le parrain, une longue carrière de producteur, il a notamment de nouveau remporté un Oscar pour Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Donc cette série, au-delà de nous faire replonger toujours avec un grand plaisir dans l'univers du parrain, elle a un ton très léger, mais elle nous fait basculer dans toute une époque, en fait, celle des années 70. On y croise toute une ribambelle de personnages hauts en couleur, soit directement liés au parrain, comme bien sûr Mario Puzo, Coppola, Brando, Pacino, mais certaines qui ne sont pas liées, comme ton ami Kissinger, ou bien la célèbre actrice et égérie Aline Maglow. Donc c'est un magnifique hommage à cette époque, mais c'est un magnifique hommage au grand cinéma et au métier de producteur. C'est aussi de manière un peu plus, peut-être, politique, une vive exhortation pour les studios hollywoodiens à la prise de risque, à s'affranchir des schémas marketing préconçus. Et donc, c'est en creux une critique de beaucoup de choses qu'est devenue Hollywood, c'est-à-dire une industrie cinématographique totalement financiarisée, et donc averse au risque, et donc addict aux franchises, préquelles, séquelles, qui permettent d'assurer des revenus plus ou moins prévus, au détriment souvent, malheureusement, de toute créativité. Une industrie qui est un peu coincé, pris en sandwich, sous la coupe d'une part des comptables et d'autre part des esprits bien-pensants, moralisateurs, qui veulent injecter leur moraline partout. Bref, de tous les côtés, des ennemis de la liberté créatrice et des ennemis des risques heureux que la liberté peut représenter. Donc voilà, Hollywood, bien sûr, ce n'est pas que ça, et la créativité aujourd'hui se situe en grande partie largement en dehors d'Hollywood, mais The Offer a le mérite de rappeler ce qui fait la différence entre une œuvre d'art, particulièrement imposante, en l'occurrence avec le parrain, et puis ce qui relève du pur business, l'un, bien sûr, n'étant pas totalement l'ennemi de l'autre. Donc malgré quelques petites longueurs, surtout dans la première demi-heure qu'il faut impérativement surmonter, on passe un super moment avec cette série, et puis c'était un visionnage indispensable pour tous les fans du parrain comme toi.
Merci beaucoup mon cher Romain, je sais que c'est une recommandation qui plaira aussi à nombre de nos auditeurs qui partagent notre passion et notre goût pour le parrain. Nous avons été un peu longs aujourd'hui, mais je crois que c'était le plaisir de se retrouver en ce début d'année 2023, mon cher Romain. Je te souhaite encore une très belle année, je souhaite une très belle année à nos auditeurs, et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Merci pour leur écoute pour ce double épisode. Bonne année à tous et à très vite.